Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Clément Fraiolis, ce qui est dit dans les émissions de radio et de télévision. Et nous décrypterons cette parole avec un politologue. Ce soir, Thierry Vedel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc chercheur au CNRS et au Centre de recherche politique de Sciences Po. Ce sera demain soir, à 20h, dans les médias, Emmanuel Macron déclinera ses mesures censées répondre aux attentes exprimées durant le grand débat national. Le chef de l'État aura ainsi pour but, à n'en pas douter, de mettre un terme à la révolte des Gilets jaunes qui perdure depuis bientôt 5 mois. Ses opposants rêvent d'un virage, ses partisans espèrent un tournant. La question est, quelles sont les pistes envisagées? Catalogue un peu fourre-tout et où? Mesures institutionnelles symboliques, chacun y va de ses ultimes recommandations. Nous verrons cela dans quelques minutes. Avant cela, Clément, il y a les déclarations de principe des uns et des autres.
Qu'attendre des annonces de demain? Le grand débat va-t-il ouvrir une nouvelle page du quinquennat d'Emmanuel Macron ou accoucher d'une souris? Pour la chef du Rassemblement national, en tout cas Marine Le Pen, il n'y a rien à espérer à part des effets de manche de la part du président.
Le président de la République a d'ores et déjà annoncé qu'il ne changerait pas de direction, qu'il mènerait la politique qu'il a menée déjà depuis 2 ans. Et donc je m'attends à quelques amodiations minimes, anecdotiques, à la marge, qu'il présentera bien sûr à grands coups de trompette et de flonflon pour tenter de faire croire qu'il s'agit là d'une révolution. Comment ils appellent ça? Des annonces disruptives. C'est très macronien comme sémantique.
Marine Le Pen sur RTL et LCI ce midi. Du côté des Républicains et de leur chef Laurent Wauquiez, on reconnaît que ce débat, ces discussions ont pu être utiles, mais que le temps des actes est maintenant venu. C'est ce que disait Laurent Wauquiez sur BFM TV aujourd'hui.
Si on regarde ce qui s'est passé depuis 2 ans, bien souvent on a eu des paroles assez tonitruantes, parfois des rodomontades, et que quand on regarde à l'arrivée ce qu'il y avait, ça a souvent été pas grand-chose. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai le sentiment que depuis 2 ans, ça a été très fort dans les mots, est plutôt faible dans les actes.
On attend sans trop y croire donc dans l'opposition, et même au sein de la majorité, le flou semble régner autour des annonces à venir d'Emmanuel Macron. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, l'affirme, c'est le président et lui seul qui tranchera.
Je pense que les ministres contribuent et c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, c'est bien à lui de décider des annonces, de faire ce qu'il avait annoncé dès le départ, des mesures fortes, tenant compte de ce que les Français nous ont dit dans le grand débat.
La ministre des Transports, Elisabeth Borne, invitée de France 3 aujourd'hui.
Fin du suspense donc demain soir à 20h, sachant que l'Élysée annonce que ce soir, eh bien, le président de la République reçoit d'abord le Premier ministre, puis les membres du gouvernement, cela pour faire le point donc sur les différentes mesures. L'Élysée qui annonce qu'il s'agit d'un nouvel acte et que des changements en profondeur vont être lancés. Je cite là le communiqué du palais de l'Élysée. Thierry Vedel donc du Centre de recherche politique de Sciences Po. Il y a un fort niveau d'exigence de la part des Français. Un simple discours ne saurait suffire. Il faut des mesures fortes, frapper les esprits, quelque chose d'emblématique.
Oui, l'exercice est extrêmement difficile pour le président. Puisque tout le monde le sait, le contexte est extrêmement difficile. Ses soutiens se sont réduits tout au cours de la dernière période. On sait qu'il y a une opposition en face, qu'il y a une crise, celle des Gilets jaunes, et personne ne sait vraiment comment on va sortir de cette situation. La première chose que je serais tenté de me demander, c'est à qui le président va s'adresser. Est-ce qu'il va s'adresser aux Gilets jaunes? Est-ce qu'il va s'adresser à l'opposition politique? Est-ce qu'il va s'adresser peut-être plutôt à ses soutiens, puisqu'on sait que depuis l'origine, depuis son élection, il a un électorat, grosso modo 20 à 25% de la population, qu'il a toujours soutenu, et peut-être sera-t-il tenté de relancer un petit peu les choses en élargissant, en remobilisant son électorat et en relançant les choses dans la perspective des élections européennes.
Diriez-vous qu'Emmanuel Macron est condamné à convaincre, car nous sommes au moment où le quinquennat entre dans son deuxième acte finalement.
Que faire surtout? Et c'était très bien expliqué. Est-ce qu'il faut adopter un catalogue de mesures? On a l'impression que ça a déjà été tenté. à la fin de l'année dernière, avec des mesures qui avaient une implication et des conséquences budgétaires considérables.
C'était dès le début du mouvement des Gilets jaunes, avec 10 milliards qui avaient été annoncés,
10 milliards, tout
notamment
à fait,
pour les SMICAR.
À la fin de l'année, et on a vu que visiblement ça n'emportait pas l'adhésion aussi bien des Gilets jaunes que d'autres parties de la population, ou alors des mesures symboliques très fortes. Et là, on pense à quoi? On pense à quelque chose qui irait à l'inverse peut-être de la pratique macroniste, c'est-à-dire donner plus de pouvoir à la population, aux corps intermédiaires, ce à quoi il tend plutôt à se refuser. Et puis il y a une mesure emblématique, mais sur laquelle il a annoncé qu'il ne reviendrait pas, c'est le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Hein, ça, je crois que c'est exclu, innégociable.
Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être à nouveau des gilets jaunes dans la rue samedi prochain pour un acte 23, parce que c'était une de leurs principales revendications.
Enfin, c'était une des revendications, et l'autre revendication sur laquelle aussi, je crois, le président Macron a annoncé qu'il ne souhaitait pas avancer, en tout cas dans la même direction, c'est le référendum d'initiative citoyenne.
On reparlera de référendum dans quelques minutes. Dans la forme, donc, je le disais tout à l'heure, l'Élysée a annoncé une allocution à la nation sur le coup de 20h, on n'en connaît pas la durée, puis une conférence de presse deux jours après, donc ce sera mercredi, jour du Conseil des ministres, conférence de presse, il répondra donc aux journalistes à l'Élysée. Que pensez-vous de ce discours en deux temps, finalement?
Alors, déjà, en politique, normalement, on devrait parler que du fond, mais inévitablement, on est conduit à parler de la forme, surtout avec Emmanuel Macron, qui multiplie un petit peu les registres d'intervention. On a vu dans le passé qu'il a fait, par exemple, une interview à l'Élysée où il se promenait, où il faisait visiter l'Élysée aux journalistes de France Télévisions. Il a aussi répondu à des questions dans une école. Enfin, il multiplie les registres. Et puis, plus récemment, on a eu ces rencontres contre-régional avec des élus, des enfants, des représentants de différentes régions. Donc il y a toujours une recherche d'innovation, mais là on revient à une formule un petit peu traditionnelle avec, toutefois, c'est un petit peu étonnant, ce découpage en deux temps. C'est-à-dire comme s'ils souhaitaient un petit peu qu'il y ait une montée des oppositions, enfin qu'il y ait, je sais pas.
Oui, il y a deux jours de temps, c'est la solennité lundi, voilà. Les réactions à l'Assemblée nationale, forcément lors des questions au gouvernement mardi,
absolument.
Et mercredi, donc pouvoir remettre une couche, si vous me passez l'expression. Intéressons-nous maintenant à ce que le chef de l'État peut faire pour répondre donc aux attentes des Français. Il réfléchit encore donc à la liste des mesures qu'il estime judicieuses. Jusqu'au dernier moment, donc toutes les options sont envisagées. Clément, vous avez écouté les propositions de dernière minute formulées par les uns et les autres aujourd'hui.
Oui, et la proposition la plus choc, la plus frappante, elle nous vient de Laurent Wauquiez sur BFM TV ce midi. Le chef des Républicains apprenait pour une baisse d'impôts pour tout le monde.
En France, le problème, c'est pas seulement le niveau d'impôts, c'est que les impôts sont concentrés sur les mêmes. Et les mêmes, c'est qui? C'est ceux qui sont au milieu. C'est les classes moyennes. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est une baisse de l'impôt sur le revenu pour tout le monde, simple, clair, pas d'usine à gaz, moins 10% pour tous ceux qui payent l'impôt sur le revenu.
Le ras-le-bol, l'exaspération fiscale des Français, c'est aussi ce que souligne le député Les Républicains Guillaume Pelletier. Et lui, malgré le refus d'Emmanuel Macron dont vous parliez, Thierry Vedel, lui, il milite pour un retour de l'ISF.
Je pense que les Français considèrent, ils ont raison, que tout acte dans la vie est taxé plusieurs fois. Mais cette immense exaspération fiscale ne doit pas nous conduire à négliger ou à mépriser les symboles. Si j'étais Emmanuel Macron, je dirais voilà, j'ai cru comprendre que les Français attendaient beaucoup plus de justice fiscale. Et donc, sur la question de l'ISF, je souhaite que cet impôt soit maintenu.
Un maintien de l'ISF, donc, mais pas pour les propriétaires immobiliers, à l'inverse de ce qu'a mis en place le président Macron. La justice fiscale, c'est aussi la priorité de la tête de liste socialiste aux européennes, Raphaël Glucksmann. Comment? On l'écoute sur Europe 1 et CNews.
Soit en rétablissant l'impôt sur la fortune, soit en établissant une nouvelle tranche d'imposition pour les plus hauts revenus.
Retour de l'ISF donc, ou une nouvelle tranche d'imposition, peu importe pour Marine Le Pen, tout cela ne suffira pas à calmer la colère des Français. Elle milite depuis longtemps pour une dissolution de l'Assemblée nationale et une réforme du système électoral. Elle l'a redit aujourd'hui sur RTL et LCI.
Il n'y a qu'un projet législatif, somme toute, qui peut répondre à l'ensemble de ces préoccupations. Mais fondamentalement, il faut que cette dissolution soit précédée de la mise en œuvre de la proportionnelle. Pourquoi les gens sont dans la rue? Pourquoi est-ce qu'ils étaient sur les ronds-points et ils le sont encore, ils le seront peut-être encore demain? C'est parce qu'ils ont le sentiment que les votes qui ont lieu à l'Assemblée nationale ne représentent pas la majorité des Français.
La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, sur RTL et LCI ce midi.
Thierry Vedal, il y a donc deux types de mesures possibles. D'une part, des mesures sonnantes et trébuchantes, comme il l'avait fait début décembre, donc avec l'annonce de cette enveloppe de 10 milliards. Mais on sait que les marges de manœuvre sont étroites. D'autre part, des mesures symboliques, fortes, capables de marquer les esprits. Il faut donc trouver le bon mix. Le bon mélange.
Oui, en se souvenant aussi que toutes les mesures d'ordre fiscal, telles qu'on les envisage, par exemple, ajouter une tranche à l'impôt sur le revenu, etc. Enfin, tout ça, ça fait partie d'un système. C'est-à-dire qu'on peut pas faire juste un catalogue de mesures, en prendre ici quelques-unes ou les autres. Tout ça, normalement, il y a une cohérence, il y a une logique. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'hôpital, des difficultés des urgences, mais c'est lié aussi au recrutement des médecins 10 ans auparavant, enfin des choses comme ça. Tout ça, ça fait système. C'est là la grosse difficulté et on peut pas saupoudrer et prendre ici ou là. Sachant aussi que c'est très difficile, la justice sociale ou fiscale. Par exemple, quand Laura Wauquiez dit 10% d'impôt en moins sur le revenu, d'accord, sauf que l'impôt le plus injuste, c'est peut-être la TVA, puisque tout le monde la paye. Et là, on parle pas de TVA progressive en fonction des revenus. Et puis l'autre chose, tout le monde le sait, en politique, là, les symboles jouent un rôle très important. Mais il y a aussi quelque chose qui joue un rôle très important en politique, c'est le fait de ne pas perdre la face. Et j'ai l'impression qu'on est malheureusement dans une situation où personne ne veut perdre la face. Ni les Gilets jaunes, ni le président de la République.
En tout cas, il faut s'attendre à des mesures sur la fiscalité, sachant qu'un sondage IFOP publié aujourd'hui par le journal du dimanche montre que l'éventuelle mise en place de nouvelles tranches pour rendre l'impôt plus progressif, et puis la réindexation des petites retraites sur l'inflation, eh bien, obtient les suffrages. 82-88% des Français approuvent ces mesures.
Tout à fait. Donc ça, c'est des mesures qui, généralement, ont le sentiment de beaucoup de Français. Alors là où ça devient plus compliqué, et il faut quand même dire et redire que dans beaucoup d'enquêtes, on voit quand même une certaine contradiction chez les gens qu'on interroge. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est plutôt pour la baisse des dépenses publiques, tout le monde est plutôt pour la réduction des impôts, et en même temps, on veut qu'il y ait préservation ou un développement des services publics. Donc on est souvent dans ce type de contradiction. Rappelons-nous aussi très souvent ce que les Gilets jaunes disent, ils ont à la fois une très grande défiance à l'égard des politiques et en même temps ils disent c'est aux politiques de faire le boulot. Donc on est en permanence, il me semble en tout cas, à travers les enquêtes on le voit, dans une certaine contradiction des citoyens qui veulent un peu tout en même temps. D'où la difficulté pour les politiques à gérer les choses.
Et on verra donc les réactions que susciteront l'annonce des mesures qui seront faites demain soir par le président de la République sur le coup de 20h pour clore le grand débat national. Vous écoutez Dimanche Politique sur Radio France Internationale.
Philippe Le Caplain.
Et en attendant les critiques qui ne manqueront pas de fuser, bien sûr, dès que le président de la République aura annoncé ses mesures, il y a celles très vives qui sont émises à propos de la loi prévoyant la privatisation d'Aéroports de Paris. Alors c'est un projet qui vire au casse-tête politique, d'autant qu'est évoqué un référendum. Clément Fraioli, il y a ceux qui reprochent au gouvernement de vendre les bijoux de famille et ceux qui assurent que cela ne passera pas, comme lorsqu'il s'était agi de céder les autoroutes à des investisseurs privés.
Oui, une des premières raisons des opposants à la privatisation d'ADP, c'est le précédent des autoroutes, céder donc à des entreprises privées pour un résultat plus que mitigé. Mais la ministre des Transports, Elisabeth Borne, l'assure, le gouvernement a appris des erreurs du passé.
Je pense qu'on a tiré tous les enseignements des privatisations des autoroutes.
Alors, par exemple,
et moi, j'étais pas dans le gouvernement, vous savez, qui a fait ces privatisations.
Mais qu'est-ce que vous avez
et
tiré
je pense qu'on aurait été bien inspiré de revoir les contrats. Et je pense qu'à l'époque, on a fait preuve d'un peu de légèreté en ne revoyant pas les cahiers des charges, les contrats.
Vous ne serez pas
la privatisation.
Pas sûr que cette déclaration d'Elisabeth Borne suffise. Pour Laurent Wauquiez, il est clair que le projet de privatisation d'Aéroports de Paris ne tient pas la route.
Vous le savez très bien, y compris des économistes ultra-libéraux disent attention. Ouais. Le dossier est pas sérieux. Ouais. Pourquoi il est pas sérieux? Parce que quand on le regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le fruit de la privatisation risque de rapporter moins à l'État que si jamais il restait actionnaire. C'est-à-dire que le danger, c'est qu'en fait, on vende juste les bijoux de famille dans la précipitation. Et pourquoi? Tout le monde l'a bien compris. Juste pour éponger en apparence la dette, alors qu'on fait pas le vrai travail qui est attendu, baisser le déficit et baisser la dépense publique.
Vendre Aéroports de Paris pour colmater les brèches du budget de l'État, c'est aussi ce que dénonce Raphaël Glucksmann.
On est en train de vendre les entreprises et les infrastructures stratégiques de nos pays. Et que c'est une vision extrêmement court-termiste pour combler un trou dans un budget. Mais c'est ce qui se passe partout en Europe. Or, il faut revenir là-dessus.
En tout cas, ce projet de privatisation aura réussi l'exploit de réunir l'opposition. Donc un projet de RIP, de référendum d'initiative partagée est lancé. C'est la première fois qu'un mécanisme de la sorte est enclenché. Ça a beaucoup fait parler cette semaine à l'Assemblée nationale, notamment avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui a accusé les signataires de faire le jeu du populisme, une attaque qui amuse le député Les Républicains Guillaume Pelletier.
J'avais d'abord cru comprendre que ce qui fonde le nouveau monde d'Emmanuel Macron, c'était la capacité à transcender la droite et la gauche. Et donc je suis particulièrement étonné de voir certains de ses ministres, venus d'horizons différents, faire semblant de s'étouffer de cette conviction très forte qui nous anime, nous, au Parlement, que de transcender les intérêts particuliers pour défendre une vision d'intérêt général.
Le député Les Républicains Guillaume Pelletier, interrogé sur France Inter.
Thierry Vedel, que l'on comprenne bien, car quand on parle de référendum, il y a le RIC, qui était réclamé par les Gilets jaunes, et le RIP, qui existe déjà depuis maintenant une dizaine d'années.
Tout à fait. Alors, le RIP, c'est ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée, même si dans la Constitution, il n'a pas ce nom-là. Mais l'idée, c'est de permettre, d'une part, un nombre minimum de députés soutenus ensuite par la population, d'introduire donc une proposition de loi qui permettra de changer des lois qui ont été votées ou d'introduire des changements d'ordre constitutionnel.
Donc c'est une proposition de loi proposée par un cinquième des députés, et ensuite il faut qu'il y ait 4 millions de Français, 4 millions et demi de Français
voilà,
qui signent.
Qui apportent leur soutien. Alors il y a aussi une étape intermédiaire très importante, il faut aussi que la proposition des députés soit validée par le Conseil constitutionnel. À partir de là, s'ouvre une période assez longue, et d'ailleurs étonnamment longue, 9 mois, pour permettre de réunir les signatures. Alors c'est étonnamment longue parce qu'on se dit, à l'époque d'Internet, on peut réunir les signatures beaucoup plus rapidement. Et au total, puisque la procédure n'a jamais été expérimentée, il pourrait se passer 18 mois entre le début de la procédure et finalement son adoption.
Et Clément nous le disait, un certain nombre de députés des oppositions, de gauche comme de droite, veulent mettre en place ce type de référendum, et c'est un vrai casse-tête politique, certes, mais constitutionnel. Il n'est pas sûr que ça puisse se faire.
Alors, d'abord, si on se rappelle l'époque où ça a été adopté, tout le monde disait que c'était une disposition qui était destinée à n'être jamais appliquée, tellement à la fois les conditions de forme, de fond étaient exigeantes, et parce que aussi on imaginait bien que les parlementaires ne s'engageraient pas là-dedans. Et puis le contexte a énormément changé, et aujourd'hui, on est sur un sujet qui tout à fait symbolique, aussi, donner la parole au peuple, peut-être remettre en cause une certaine façon de faire la politique, il y a des soupçons peut-être de corruption, etc. Donc on en revient à cette idée de consulter la population et le peuple.
Alors, en tout cas, selon un sondage Harris Interactive, 48% des Français voteraient contre la privatisation d'Aéroports de Paris si cette question devait être soumise à un référendum. Ça veut dire qu'il y a une réelle attente, un besoin du peuple de se réapproprier le débat politique?
De façon générale, et c'est ce que manifeste, je crois, la crise des Gilets jaunes, il y a un besoin d'expression. Alors ensuite, il faut trouver les canaux qui soient à la fois pratiques et efficaces, et moi j'ajouterais en tant que politologue, peu coûteux. C'est-à-dire qu'il faut imaginer aujourd'hui des dispositifs qui permettent à la population d'intervenir davantage, pas forcément en permanence, mais surtout à tout le monde d'intervenir, et pas seulement une minorité de gens qui sont militants, qui sont actifs, surpolitisés. Et c'est ça le gros défi. Quelque chose de simple qui permette au plus grand nombre d'intervenir.
Merci pour ces commentaires, Thierry Vedel, chercheur au CNRS et au Centre de Recherche Politique de Sciences Po. La politique encore sur Radio France Internationale, ce sera demain matin Emmanuel Morel qui sera l'invité de la rédaction, député européen, fondateur de la gauche républicaine et socialiste et qui est candidat aux élections européennes. Il est numéro 6 sur la liste de la France Insoumise. Dimanche politique était réalisé par Valentin Vallère.